C'est un scénario digne de roman d'espionnage. Le 17 mai 1957, une forte explosion secoue le bâtiment de la préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg. Le premier étage est dévasté. Les premiers témoins découvrent le corps sans vie d'Henriette Trémaux, épouse du préfet. En pleine guerre froide, à cause d'une boîte de cigares piégée, l'Alsace se retrouve tout d'un coup au centre de l'actualité. Les responsables de l'opération Strasbourg ne paieront jamais leur dette de sang. Sans coupable, Emmanuel Viau.
Céline Rousseau.
T'as déjà fumé un cigare, toi, Céline ?
J'ai déjà goûté, oui.
T'as aimé ?
Pas spécialement.
Et du coup, t'as pas refait, j'imagine ?
Ben non, pourquoi ?
Parce que notre podcast du jour raconte une histoire qui s'est déroulée dans les années 50 et dans laquelle une boîte de cigares joue un rôle crucial.
Oui, bon, les cigares, de toute façon, c'était une affaire d'homme à ce moment-là. Hein.
C'était l'époque.
Oui, et ?
Eh ben, à l'époque, dans les réceptions, c'était chic de servir des cigares aux invités, avec de l'alcool aussi, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai, ça se fait un peu moins.
Pour les cigares, plus du tout. Pour l'alcool, ça continue quand même.
Oui, mais un peu moins aussi, hein. Quand même, tu trouves pas ?
Ouais, si, un peu moins.
Tu te demandes où je veux en venir, peut-être ?
Ah bah non, je sais très bien où tu veux en venir. On le fait ensemble, ce podcast, tu te souviens ?
Ah oui, mais c'est pour les auditeurs, je fais un petit peu de suspense.
Pas sûr que ce soit nécessaire.
Ah bon ? Ok, alors j'y vais. C'est une histoire de cigares et d'espions qu'on va raconter aujourd'hui, Céline.
En effet, Emmanuel, une sale histoire.
Ça se passe à Strasbourg, à la préfecture du Bas-Rhin, le vendredi 17 mai 1957.
Le préfet André-Marie Trémaux, en poste depuis un peu plus d'un an, est à l'honneur. Il se prépare à être promu chevalier du mérite agricole.
Jolie récompense.
Oui, et pour fêter ça, Pierre Pimelin, député et président du Conseil général du Bas-Rhin, et le comte d'Andelot, président de la Chambre d'agriculture, font partie des invités.
Le gratin de la région, quoi.
C'est ça. Vers midi, tout le monde a fait son discours, la cérémonie est terminée, et comme il est de coutume, le groupe s'installe sur le perron pour immortaliser l'événement. Ça tarde, on attend le photographe qui ne viendra jamais.
Grand bien, il en a pris.
C'est le moins qu'on puisse dire. Pendant ce temps-là, l'épouse du préfet, Henriette Trémaux, active pour les préparatifs du banquet.
Encore un signe de l'époque.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Eh ben qu'aujourd'hui, les préparatifs du banquet, c'est moins les femmes qui... Enfin, passons.
Ouais, bon. Tout est prêt, ne reste plus qu'à servir les fameux havanes.
Pour le côté chic.
Madame Trémaux fait glisser la lame d'un couteau le long de la boîte pour briser le cachet de cire.
Et c'est à ce moment-là que les invités sentent le souffle d'une puissante explosion à l'étage qui secoue le bâtiment et brise les vitres.
On se précipite dans l'escalier et on découvre, dans les décombres du petit salon, le corps d'Henriette Trémaux.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
À Strasbourg, c'est le choc. Les DNA titrent solennellement « Victime du devoir », Madame Trémaux, épouse du préfet du Bas-Rhin, mortellement blessée par l'explosion d'un engin. On parle d'une émotion intense qui s'est propagée dans la France entière.
C'est un attentat et personne dans ces années-là ne s'y attendait. La violence du choc, la victime, le lieu du crime.
La préfecture, symbole de la République.
Surtout quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle, on le sait, hein, l'Alsace a été particulièrement meurtrie.
Et donc ça ravive de mauvais souvenirs pas si lointains, surtout qu'il est question d'un retour des nazis.
Oula, pas trop vite Emmanuel, on va faire les choses dans l'ordre.
Ah oui, t'as raison, je vais un peu vite.
Oui, il faut prendre le temps de bien poser les enjeux.
Oui, sinon les gens comprendront rien.
Oui, c'est ça. Un peu d'ordre quand même.
Ok, donc dans l'ordre, le temps est d'abord au deuil.
Le soir même, le ministre de la Défense nationale, Maurice Bourgès-Monoury, débarque à Strasbourg. Le lendemain, c'est le ministre de l'Intérieur, Gilbert Jules.
Le dimanche, des milliers de Strasbourgeois se recueillent devant la préfecture, puis le lundi matin, ils sont encore très nombreux à la cathédrale pour assister aux funérailles de Madame Trémaux.
Et un mois plus tard, le préfet Trémaux quitte la région.
On peut le comprendre.
Bien sûr. Pendant ce temps, en coulisses, on s'agite jusqu'au sommet de l'État. Le ministre de l'Intérieur confie l'enquête directement à Roger Vibault, le patron de la direction de la surveillance du territoire, la fameuse DST. Ah. Mais compte tenu des moyens de l'époque, les preuves recueillies sur place sont très minces.
Pas d'ADN.
Ben non.
C'était l'époque.
Oui, bon, tu vas le redire à chaque fois.
Non, vas-y.
Sûr ?
Oui. Déjà, sur quel fait on peut se baser ?
Alors, on commence bien sûr par ce qu'il reste de la boîte de cigares. On apprend rapidement que le colis a été posté à Paris, le 13 mai, dans un bureau de poste du 12e arrondissement. Il est arrivé à Strasbourg le 14 mai.
Ce jour-là, le colis est réceptionné par la secrétaire du préfet qui l'ouvre et le range dans un tiroir. Cette décision va changer le cours de l'histoire.
Et oui, parce que le 14 mai, c'est le jour où le préfet Trémaux reçoit de nombreuses personnalités de haut rang à l'issue d'une session de la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui a son siège à Strasbourg.
Et qui verra son rôle se réduire progressivement avec la mise en place de la CEE, la Communauté économique européenne dont les traités ont été signés justement en mars de cette année-là.
Précisément le 25 mars 1957.
Ah merci Céline, la CEE qui est elle-même l'embryon de l'Union européenne.
Tout à fait, mais ce ne sont pas ces cigares-là qui ont été servis finalement. La boîte est restée fermée jusqu'au vendredi fatidique.
Donc c'est pas Henriette Trémaux, l'épouse du préfet, ni le préfet lui-même qui est visé.
Pas directement, non.
Et Céline, est-ce qu'on sait qui a fait le coup ?
En fait, Emmanuel, si on le savait, je crois qu'on n'aurait pas fait ce podcast, tout simplement.
Pas faux, c'était juste pour relancer, en fait.
Tu t'ennuies ?
Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on sait au départ de l'enquête ?
On connaît le nom et l'adresse de l'expéditeur.
Ah, c'est déjà un bon début.
Oui, grâce à la secrétaire du préfet, quelqu'un de très organisé.
Ah, ça, tu dois apprécier.
Pas que moi, figure-toi, les enquêteurs aussi, en général, aiment bien les gens organisés. Et plein d'autres gens aussi, tu sais.
Oui, des gens comme toi. Oui,
c'est ça. Donc, comme je disais, la secrétaire du préfet a relevé l'adresse de l'expéditeur, comme elle le faisait toujours, pour envoyer une lettre de remerciement.
Et cette adresse, ça donne quoi ?
T'as un doute, hein ?
Ouais.
T'as raison. On parle d'un certain Carlos Garcia, Sol de Vilade, représentant général pour l'Europe des cigares Habana.
Un nom qui correspond à personne, j'imagine.
On est bien d'accord. La seule évidence à ce stade, c'est que ce colis a été piégé par un spécialiste.
Ah, un genre de savoir-faire qui n'est pas à la portée de tout le monde, surtout qu'il n'y avait pas Internet à l'époque.
À l'époque. Et non.
Allez, moque-toi. Alors, combien de pistes on a ?
4.
Ah, quand même. Bon, en général, avoir autant de pistes, c'est comme n'en avoir aucune au final.
Il
hein.
y a du vrai dans ce que tu dis.
Content de te l'entendre dire.
Oh bah, je le dis des fois, ce genre de choses.
Bon, pas souvent, non, mais bon. La première piste, c'est quoi ?
Oh bah, ça va être rapide.
Céline ?
Ouais ?
Je peux mettre un peu de musique, là ?
Ok. Ah, c'est rythmé.
C'est bien, non ?
Pas mal, pas mal.
Tu y vas ?
Ok. Tout de suite après l'attentat, la police fait une descente dans les milieux autonomistes alsaciens encore actifs.
C'était l'époque encore.
Oui, mais on arrive vite au bout de cette piste. Quelques anciens autonomistes alsaciens connus sont arrêtés et ça n'ira pas plus loin.
On est vite là-haut là.
C'est évidemment une fausse piste. Personne parmi eux n'a les moyens ou la volonté de monter une opération pareille.
La deuxième piste est plus prometteuse.
Pas vraiment. Il s'agit de la piste du FLN, qui est certes prise un peu plus au sérieux par les enquêteurs.
Le Front de Libération Nationale, l'Algérie donc.
N'oublie pas qu'on est en pleine guerre d'Algérie justement, avec des mouvements rebelles, comme on les appelait, qui étaient très engagés.
Ah, et justement, le préfet Trémaux avait été en poste à Alger.
3 ans, de 1952 à 1955. Il est arrivé à Strasbourg au début de l'année 1956.
Ah, c'est quand même du sérieux comme piste.
Oui, mais non en fait. Le préfet Trémaux n'avait pas fait parler de lui pendant sa période à Alger. On lui reconnaissait plutôt des qualités d'impartialité. Il ne s'était pas fait d'ennemis connus sur place. Rien à trouver de ce côté-là.
Bon, alors la troisième piste maintenant, elle est d'autant plus crédible qu'elle s'appuie sur des faits.
Oui, des lettres de menaces envoyées par dizaines à des personnalités françaises, suisses et allemandes.
Là, c'est du sérieux.
Des semaines avant l'attentat, plusieurs lettres rédigées en allemand et en français avaient été adressées à des préfets et des élus des trois départements composant l'ancienne Alsace-Lorraine, mais aussi de Suisse et d'Allemagne de l'Ouest. Ces lettres sont signées Kampfverband für una weniges Deutschland.
Ce qui veut dire ?
Groupe de combat pour une Allemagne indépendante. Une sorte de gloubi-boulia dialectique à base de rendez-nous l'Alsace-Lotrienne.
Gloubi-boulia dialectique ?
Ouais.
Dans l'expression, ça ?
Gloubi-boulia ?
Bah, surtout le fait d'ajouter dialectique.
Ça pose un problème.
Donc,
un gloubi-boulia dialectique où il est question d'oppresseurs français, d'allemands libres et indomptés ou encore de la langue allemande qui résonnera à nouveau sur cette terre. On y dénonce, je cite, vos espions, vos agents, vos enseignants qui, au nom de votre pays dégénéré, s'emploient à humilier, à déraciner la fierté de nos concitoyens.
Carrément.
On y promet une vengeance impitoyable.
Un peu effrayant quand même. Hein.
C'est sûr, surtout quand on sait après coup ce qui est arrivé à Madame Trémaux. Mais à la réception des lettres, en fait, personne ne s'en était formalisé plus que ça.
Donc, apparemment, l'Allemagne est impliquée dans cette histoire. Jusqu'où ?
C'est toute la question. Et ça donne tout de suite à cette affaire un écho international.
Là, c'est du sérieux. Les DNA évoquent une piste nazie dans les jours qui suivent, puis la presse française se déchaîne pour dénoncer le fascisme incurable des Allemands, je cite. Et puis, il y a les Russes qui attisent les braises de leur côté, pas mécontents de cette polémique.
Plutôt contents même. Pour calmer le jeu et donner des gages de confiance à ses alliés, le chancelier allemand Adenauer met tout en œuvre pour faciliter l'enquête. L'Allemagne, nouvellement tiraillée entre blocs de l'Est et de l'Ouest, est un enjeu de la guerre froide qui divise le monde en deux.
Oui, et c'est donc pas la peine d'en rajouter maintenant.
Précisément. On fouille partout dans les milieux néo-nazis, on envoie des agents d'infiltration, rien. Par contre, des études vont révéler que la même machine a servi à dactylographier les lettres de menace et l'adresse collée sur l'emballage du colis piégé.
On peut remonter à l'auteur ?
Pas facile. Des indices linguistiques laissent croire aux enquêteurs que la boîte de cigares a été préparée en Allemagne de l'Est, voire peut-être en Tchécoslovaquie.
Qu'est-ce qui leur fait croire ça ?
Certaines tournures de phrases en allemand et des fautes de syntaxe qui ne sont faites que par les Sudètes, des colons allemands installés en Tchécoslovaquie.
Ah.
On dit que cette population était très liée au service secret tchèque.
Donc la piste allemande se transforme en piste tchèque.
Ouais. Mais tout ça, à l'époque, ben c'est l'URSS.
À l'époque, c'est l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Toute notre jeunesse, ça, Céline.
Oui, enfin, la tienne surtout.
Ouais, c'est vrai, la mienne, mais enfin, on n'a pas une si grande différence d'âge.
Enfin, faut être précis, ça compte.
Ouais, je te reconnais bien là. Quoi qu'il en soit, le titre façon James Bond de notre podcast n'est pas usurpé parce qu'il sera bien question de KGB là-dedans et sera notre quatrième et dernière piste.
Oui, et c'est pour ça que pendant des années, la piste se perd dans le secret des redoutables services d'espionnage soviétiques.
L'enquête est au point mort, elle conduit à un non-lieu en février 1964. Il faudra attendre plus de 10 ans après le drame, en 1968, pour qu'un début de vérité éclate au grand jour grâce à un certain Ladislav Bittman, qui a fait défection pour rejoindre le camp de l'Ouest. Qui est ce personnage ?
Ladislav Bittman, c'est le directeur adjoint du département des informations des puissants services secrets tchèques, le STB.
Un homme important. Et quand tu me parles des informations, services secrets tchèques, je pense immédiatement Russie.
Eh bien, tu penses bien, Emmanuel. Le transfuge Ladislav va raconter, entre autres confidences, hein, les grandes lignes de ce qui a été appelé à l'époque l'opération Strasbourg.
Il faut bien négocier son transfert.
Tout à fait. On apprend alors que l'affaire de la boîte de cigares piégée a été imaginée et commanditée par le KGB, qui avait demandé aux services secrets tchèques de se charger des modalités pratiques.
Une forme de sous-traitance entre services secrets.
Oui, c'est un peu ça.
Et pourquoi cette opération Strasbourg ?
La réponse apportée par Ladislav Bittman est particulièrement retorse.
En même temps, c'est un peu ça la marque du KGB à l'époque, non ?
À l'époque, oui. L'objectif était clairement d'envenimer les rapports franco-allemands. Il fallait absolument torpiller l'amitié naissante entre les deux pays, symbolisée par le traité de Rome qui marque le début du marché commun.
La Russie veut surtout pas d'une Europe unie à ses portes.
Précisément.
Une entreprise de déstabilisation, ça.
Il fallait mettre l'Allemagne au banc des nations en suggérant qu'une résurgence du nazisme était inévitable.
Et on jouait là sur une crainte qui était bien réelle.
Tout à fait.
Et la fameuse réunion de la commission du charbon et de l'acier, alors, qui s'est tenue donc quelques jours auparavant à Strasbourg, aurait permis un retentissement maximal.
Ah, il y aurait eu plus de victimes, oui, et la cible aurait été plus symbolique.
Finalement, Henriette Trémaux a été l'une des nombreuses innocentes victimes de la guerre froide.
Ouais, c'est ce qui s'appelle être au mauvais endroit au mauvais moment.
Ces révélations étaient confirmées par un autre transfuge, Joseph Frolik, dans un livre paru en 1975. Et dès qu'on apprend tout ça, j'imagine qu'on s'attelle à retrouver les auteurs de l'autre côté du mur.
Ou pas.
Ah bon ?
Eh non, Emmanuel, tu as regardé trop de films de James Bond.
Ah oui, c'est vrai, j'adore. Surtout celui avec les gars qui a des dents en acier, là.
Moonraker ?
Oui, c'est ça.
Il est nul, celui-là.
Ah bah non, Moonraker. Bah,
si, quand même, le coup des dents en acier, là, ça fait un peu grand guignol.
Grand guignol, mais quand même, c'est Moonraker, quoi.
Puis bon, t'énerve pas. On revient à nos espions tchèques, d'accord ?
Ok.
Tu imagines, Emmanuel, que ce genre d'opération demande des moyens et du temps, et ce n'était clairement la priorité de personne à ce moment-là.
Oui.
En fait, il va falloir attendre la chute du mur de Berlin, puis la réorganisation des États après la dislocation de l'URSS.
C'est vrai que le monde a d'autres chats à fouetter. La Tchécoslovaquie, par exemple, se scindra en Tchéquie et Slovaquie en 1992.
Ouais, et c'est 4 ans plus tard, en 1996, que l'Office d'investigation et de documentation des crimes du communisme ouvre le dossier. Un documentaliste zélé se plonge alors dans les archives et déterre l'opération Strasbourg où on retrouve la trace du 4e département du STB.
L'unité chargée de l'Allemagne et de l'Autriche.
Oui, et en 1999, en se repérant dans un dédale de faux noms et d'organigrammes plus ou moins bidonnés, on trouve la piste de 4 officiers du STB.
Miloslav Kratochvila, qui a pour nom de couverture Kuba, Kachirek et Medlichko, Robert R., Milan Michel alias Moser ou Kopetsky, qui dirigeait le fameux 4e département, et Stanislav Thomas alias Frank Formalek, son adjoint. J'ai bien prononcé, tu crois ?
Ouais, pas terrible, mais j'aurais pas fait mieux.
Ah, ta modestie t'honore. On a toutes les billes maintenant pour reconstituer l'opération et on voit qu'elle a été minutieusement préparée.
Oui, parce que dès octobre 1956, le 4e département envoie les faux courriers nazis dans le but de créer un climat de tension en Europe.
Pile le moment où on débattait à Paris, en Chambre des députés, de l'avenir des relations franco-allemandes sur fond de marché commun et de traité de Rome en fait. Hein. Coïncidence, Céline ?
Je ne crois pas, Emmanuel.
Et au printemps 1957, les choses s'accélèrent. Un commando de 4 agents sous la direction de Milan Michel se prépare à débarquer en France avec des visas diplomatiques.
En début d'année, Kuba, l'expert en explosifs, avait préparé la boîte de cigares avec les techniciens de la 9e administration du ministère de l'Intérieur à Prague.
Celle qui est chargée du matériel des agents, comme la section Q dans James Bond.
Ouais, c'est un peu ça. La boîte est de petite taille, hein, 19 cm sur 14. Elle est soigneusement empaquetée dans du papier blanc qui cache une charge explosive déclenchée par une pile électrique au moment de l'ouverture de la boîte. C'est du peroxyde d'acétone, quelque chose d'assez classique en fait. Facile à fabriquer, difficile à détecter. Il a été découvert en 1895 et sais-tu que son vrai nom ?
Ouais.
C'est le TAT. Le triperoxyde de triacétone.
Oui. Céline ?
Ouais.
Tu t'emballes vraiment pour des choses étranges.
Oui, ça m'arrive. Toujours est-il que le 9 avril, la fausse boîte entre en France par la fameuse valise diplomatique portée par Milan Michel.
C'est presque trop facile, personne ne peut l'ouvrir, personne ne peut la passer au scanner.
Facile, pas facile, l'esthétique, ça, les Russes s'en fichent un peu. L'important, c'est l'efficacité. Le chef du commando débarque donc en France le 24 avril sous l'identité de Milan Kopecky, puis s'en va tranquillement loger à l'ambassade tchécoslovaque.
Moi j'avais dit Milan Kopecky, je pense que c'est comme ça.
Oui, c'était faux, je n'ai pas voulu te couper, mais c'est pas grave, on enchaîne.
C'est Kopecky ?
Oui, bien sûr.
Ah. Donc il reste pas longtemps là-bas, à Tchécoslovaquie.
Non, il quitte Paris le 30 avril par un vol direct Orly-Prague.
Comme s'il était venu juste pour cette livraison.
Ça y ressemble en tout cas. Son adjoint Stanislav Thomas prend le relais en France du 2 au 8 mai. À son arrivée, il contacte Koupa,
l'expert en explosifs,
qui met la dernière main au dispositif de la boîte de cigares. Pour mettre les enquêteurs sur la mauvaise piste, il tape volontairement l'adresse d'expédition avec la même machine que celle qui a été utilisée pour les tracts.
Le stratagème est bien en place.
Le 13 mai, en fin d'après-midi, le colis piégé est déposé au bureau de poste du boulevard Diderot, dans le 12e arrondissement de Paris, c'est en face de la gare de Lyon. La bombe arrive comme prévu le lendemain à la préfecture de Strasbourg, mais le facteur humain fait échouer le plan.
Pas le facteur de la poste.
Oh, tu trouves que c'est le moment de faire des jeux de mots ?
Peut-être pas. Bon, soyons sérieux, si je résume. Maintenant qu'on connaît les auteurs, mais ils restent intouchables.
Jusqu'en 2002. Parce que 45 ans après les faits, les ex-agents Michel et Thomas,
le chef et son adjoint donc,
âgés tous deux de 75 ans, sont inculpés alors qu'ils coulent une retraite paisible à Prague.
Ah oui.
Les deux autres membres du Quatuor sont décédés.
Et on va aller jusqu'à la mise en accusation quand même.
Non, oui, en 2006, les deux anciens espions sont accusés de meurtre par le procureur de la République du parquet de Prague.
Et ils nient tout, j'imagine.
Bien sûr, la justice démocratique leur fait pas vraiment peur vu tout ce qu'ils ont connu avant. Ils prétendent avoir toujours été d'honnêtes membres des services d'espionnage.
Ah ouais, d'honnêtes membres des services d'espionnage, c'est pas mal, c'est un peu ironique quand même, parce que bon, quand on est espion, l'honnêteté c'est pas forcément un critère d'embauche.
Les convictions sont sûrement un plus fort critère de recrutement. Et t'as raison Emmanuel, le métier exige parfois quelques entorses à l'honnêteté.
Quoi qu'il en soit, malgré l'espoir suscité, toute cette affaire n'ira pas plus loin.
À vrai dire, elle ne se rendra même pas jusqu'aux audiences d'un tribunal.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Curieusement, quelques mois à peine après leur annonce, les poursuites sont brusquement suspendues. On invoque l'état de santé des accusés.
Oui, ils sont vieux, c'est commode.
En effet, la presse tchèque évoquera aussi brièvement, en 2013, une vague gaffe de la justice dans ce dossier, sans plus de détails.
Gaffe de la justice, qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Ça, je sais pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça veut dire au moins une chose, l'attentat de 1957 restera jamais impuni.
C'est bien nébuleux quand même tout ça.
D'autant plus que la presse tchèque évoquera quelques accointances du côté de la juge responsable du dossier qui a été membre du Parti communiste avant 1989.
Ah, les raisons de santé seraient donc bien un écran de fumée.
Et il y a le parquet aussi qui ne fait pas appel de la décision. De toute façon, qui s'en soucie encore ? Le préfet Trémaux, qui a pris sa retraite en 1966, est décédé en 1993 et le couple n'avait pas d'enfant.
Résultat, le dernier membre du commando toujours en vie en 2013, Stanislav Thomas, 86 ans,
peut finir ses jours tranquillement dans son appartement de Prague grâce à un écran de fumée, comme tu dis.
Et oui, comme quoi, quand on met ensemble des espions et des cigares, ça finit toujours par faire des histoires fumeuses.
Mais t'as vraiment besoin de faire des jeux de mots comme ça ?
Ah oui, c'est marrant, non ?
Mais non, pas du tout. Puis d'abord, c'est pas un sujet marrant.
Ah non, mais ça a lieu il y a longtemps quand même.
Et alors, c'est moins grave si ça fait longtemps ?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.